Bien, bah, nous allons commencer parce que là, je viens de vérifier, Xavier Bruce, arrivé de Paris ce matin par le train. Alors, il y a peut-être, connaissant la fiabilité de la SNCF dans certains cas, il est fort possible que le pauvre soit coincé quelque part et qu'il arrive en retard. Donc, ben, s'il arrive pendant le débat, il le prendra en cours. Mais donc, on va commencer sans plus attendre. Et donc, pour discuter du sujet, empoigner franchement son lecteur et ne plus le lâcher, nous avons autour de cette table Jean-Laurent Del Socorro qui essaye de s'enfuir et qui vient de faire un premier roman absolument extraordinaire qui s'appelle Royaume de vent et de colère. À côté de lui, nous avons Silène Edgar, qui est une auteure, je dirais peut-être plutôt jeunesse, hein, souvent dans ce que vous écrivez, Silène, parce que là, vos derniers romans, que ce soit Adèle et les noces de la reine Margot ou 14-14, par exemple, s'adressaient plutôt à des adolescents. Mais vous avez écrit aussi, je crois, des nouvelles donc plus orientées adultes. Donc, autre auteur très complet. Et enfin, en bout de table, Sylvie Miller, que je n'aurais même pas besoin de présenter aux habitués des Imaginales, parce qu'elle est là depuis quasiment le début. Et donc, Sylvie Miller, qui est auteure de nombreuses nouvelles et surtout co-auteure, avec Philippe Ward, de la série à succès des enquêtes de Lasserre, le détective des dieux, qui a d'ailleurs été primé aux Imaginales. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai un tout petit doute.
2014,
voilà, donc l'année dernière. Et donc, sans plus attendre, on va commencer parce que j'avoue que quand j'ai vu le sujet, bon, empoigner franchement son lecteur, oui, effectivement, je crois que c'est le but de tout auteur, d'accrocher le lecteur, de l'empoigner, mais ensuite de ne plus le lâcher. Moi, il me semblait au début que c'était peut-être plutôt faire en sorte que le lecteur ne lâche pas le livre, plutôt que l'auteur qui lâche pas son lecteur. Mais effectivement, en préparant, finalement, c'est vrai que ça peut se tourner aussi dans ce sens-là, parce que si l'auteur empoigne son lecteur et ne le lâche plus, ben le lecteur, de son côté, ne lâche plus le livre. Donc, effectivement, ça fonctionne très bien. Et pour commencer, puisque nous avons un auteur de roman et 2 auteurs qui ont fait à la fois des romans et des nouvelles, alors on va peut-être commencer par, d'abord, la technique d'accroche est-elle différente entre écrire une nouvelle, qui par définition est un texte court, et un roman? Y a-t-il une approche différente?
Entre le roman et la nouvelle, oui, je pense qu'il y a une vraie différence, c'est la structure. C'est-à-dire que dans la nouvelle, on est sur un texte très court, et donc sur un format court, on ne peut pas développer l'environnement, on ne peut pas prendre le temps d'installer des personnages, d'installer un décor sur X chapitres pour que le lecteur s'habitue tout doucement au personnage, pour avoir des rebondissements, etc. Sur la nouvelle, dans la mesure où le format est très court, il faut faire ça très vite. Donc, il faut brosser à grandes touches les caractéristiques principales des personnages. Il faut donner des pistes sur le décor, mais on ne peut pas se permettre une description de 15 pages. Et du coup, bah, la manière de l'écrire et la manière d'organiser le suspense et la narration est différente. C'est beaucoup plus ramassé et c'est beaucoup plus ciselé, une nouvelle, en fait, qu'un roman sur lequel on peut prendre le temps de s'étaler, retravailler, rebouger des choses. Donc, et j'ai envie de dire que sur une nouvelle, comme le format est court, ne pas lâcher le lecteur, c'est plus facile que sur un roman, où là, à l'inverse, on peut être tenté de s'étaler, et ça peut être plus difficile de tenir le rythme. Donc il faut aussi, là, dans la structure du roman, bien réfléchir à ce qu'on fait pour vérifier qu'on a toujours une intensité, qu'on a des montées, des descentes, et que justement, quand le lecteur risque de faiblir, il faut le rattraper. Donc il y a une différence d'écriture effectivement dans les techniques. Enfin, je pense qu'il faudrait voir avec ce qu'en pensent mes collègues.
Nous allons écouter. pratique. Ouais.
Par rapport à la nouvelle, en effet, hein, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment cette nécessité d'attraper le lecteur tout de suite et donc dès le début lui indiquer pourquoi pourquoi il va rester là en fait. Donc premier paragraphe, deuxième paragraphe, on y va. Il faut que le lecteur se dise ok, je vois en gros où le lecteur où l'auteur va m'emmener. Enfin, je connais pas la fin évidemment parce qu'il y a quand même ce côté surprise souvent aussi dans la nouvelle, mais j'ai envie de lire la suite dès la première page. Dans le roman, on peut y aller plus doucement. Je dis souvent moi, à mes élèves quand j'enseigne, attendez au moins la 50e page. On a du temps, on peut poser certaines choses et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand le nœud se noue, là tout d'un coup le lecteur qui a pris le temps de s'installer, de se poser un petit peu, se dit « Ah tiens, en fait tous les petits détails que j'ai eu jusque-là, ils ont du sens et ça y est maintenant en fait je suis pris, j'ai plus envie de partir. » Voilà.
Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, finalement, il y a de moins en moins de différences. C'est-à-dire que, moi, je vais juste parler de mon écriture à moi. Vraiment, je le monte, les ouvertures, que ce soit en nouvelle ou en roman, on va dire, de façon un peu comme les séries. Il faut presque qu'il y ait un générique, qu'au bout de 5 pages, l'auteur soit le lecteur soit accroché. Je pense que c'est un petit peu... Moi, je suis un gros lecteur. Je pense que j'écris comme j'aimerais trouver certains livres. Et c'est vrai que là, j'ai le réflexe série, c'est-à-dire que ce soit sur un format court ou que ce soit sur un format plus long, sur un roman, il faut que vraiment, à la fin du premier chapitre, il faut que ce soit collé. Il faut vraiment que le lecteur il soit ferré, il faut que ça avance, il faut qu'on ait envie. C'est vrai que après voilà, moi je veux dire, je vais pas prendre le temps de entre guillemets des 50 pages. Après voilà, j'écris des romans assez courts, donc c'est vrai que j'ai plutôt cette approche là.
Oui, c'est vrai, parce que justement là vous amenez la transition sur ce que j'aurais voulu aborder ensuite, parce que justement au niveau des techniques d'écriture, ce qui m'a frappé en lisant vos livres, c'est que vous avez des techniques d'écriture qui sont très différentes les uns des autres, tous les trois, et chacun réussit à sa manière à accrocher le lecteur tout de suite. Et effectivement, ce qui m'a frappé dans votre roman, Jean-Laurent Del Socorro, c'est que vous avez fait la référence aux séries télévisées. Et moi, quand j'ai lu votre roman, je me suis dit, tiens, c'est pas 24 heures chrono, c'est 48 heures chrono, parce qu'en fait, toute l'action se déroule sur 48 heures, deux jours, avec au milieu les flashbacks qui permettent de comprendre comment les personnages sont arrivés à cela. Et effectivement, alors vous avez une écriture qui est très nerveuse, très ramassée, une multitude de petits chapitres extrêmement courts. En fait, ce sont des séquences qui se suivent.
Oui, tout à fait. Vous avez mis les bons mots. Vraiment, j'ai monté littéralement le roman comme on monte un clip, c'est-à-dire vraiment ou un film. C'est-à-dire, on est plus sur des séquences assez visuelles, assez courtes, quasiment des plans. Mais c'est vrai que au départ, c'est moins une référence au cinéma qu'au théâtre. J'ai été comédien, j'ai le sens de la dramaturgie, de la montée du drame et de l'intensité dramatique, ça me tient beaucoup à cœur sur l'écriture. Et c'est vrai que du coup, on est sur une intensité parfois un peu excessive de quelque chose, d'une intensité qui est constante, qui monte sans arrêt. Et on se retrouve effectivement avec des effets de micro-scènes, de micro... de micro-paragraphes pour donner une information. C'est très dense, en fait. Et effectivement, la référence à la série télé, il y a de ça aussi. Oui, ouais, tout à fait.
Ça me fait penser au travail que j'ai pu faire, la façon dont tu parles du tien sur les novellas que j'ai fait pour adultes, puisque pour la jeunesse j'ai fait des romans, mais pour adultes j'ai fait deux novellas et des petites nouvelles. Et sur les novellas, en particulier sur Fortune Cookies, mais sur Fêlure, c'est un peu le même principe. J'alterne entre deux moments de la vie de l'héroïne et j'ai pensé comme ça. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très très construit, en particulier sur Fortune Cookies, parce que on a deux temps, l'héroïne dans un premier temps au mois de novembre, et puis l'héroïne 4 mois plus tard, qui a plus son mari, qui a plus sa gamine, qui est plus du tout dans la même situation. Et donc l'objectif, c'est de réussir à tenir le lecteur jusqu'au bout, puisque il faut qu'il aille au bout de la première histoire à la fin du livre pour comprendre le début de l'autre et les deux s'intercalent. Et on ne sait pas, voilà, pour savoir ce qui est devenu Blanche, il faut en même temps suivre Bianca, son pseudonyme, 4 mois plus tard. Et c'était en effet comme un travail de série. Comment on va faire pour que le lecteur y rebondisse, qu'il lâche pas aucun des deux personnages, qu'aucun des deux soit ennuyeux, et en même temps créer cette espèce de surprise à la fin. Voilà.
Et dans Adèle et les noces de la reine Margot, c'est aussi un peu la même chose. On suit le personnage. Que va-t-elle faire? Et là, vous nous accrochez parce que, on peut, sans vouloir trop déflorer le roman, en fait, elle a une double vie en parallèle.
Oui, et d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à travailler sur le texte, j'avais un autre mode d'accroche, parce que j'avais une narration qui était faite par la grand-mère qui est morte, en fait. Et puis, je l'ai supprimée pour laisser plus de temps au lecteur pour rentrer dedans, et j'ai vraiment, par contre, accentué, en effet, le moment où elle est dans son réel et le moment où elle est dans son rêve, avec cette tension qui a, enfin, moi qui m'a semblé difficile à tenir, j'espère que ça marche, pour que le lecteur ne s'attache pas trop ni à l'un ni à l'autre, et envie de suivre les deux. Et que, parce que moi, je fais ça, hein, je ne sais pas si vous le faites, des fois, je saute des chapitres, je sais pas, typiquement, quand je relis Le Seigneur des Anneaux, j'en ai marre de Frodon, je saute. Donc, quand il y a deux intrigues, la difficulté, c'est de réussir à faire lire le lecteur et qu'il n'aille pas lire la fin non plus, quand il y a une surprise. Parce que ça, c'est compliqué, parce que moi aussi, ça, je le fais, c'est pas bien, mais je vais lire la fin quand j'ai envie de savoir, même si je suis au début. Ah ouais.
J'avoue que j'ai tendance, quand je suis pris dans le roman, à vite jeter un coup d'œil dans les derniers au dernier paragraphe.
Moi, je ne le fais jamais, justement, parce que je veux garder mon plaisir jusqu'au bout. Donc, je me doute qu'il va y avoir un rebondissement, qu'il va y avoir quelque chose. Et j'ai mon plaisir coupable qui est d'attendre la fin pour savoir.
Alors, moi, je m'amuse avec ça, parce que je me dis, si jamais j'ai un lecteur comme moi qui va voir la fin et qui triche, eh ben, dans la fin, il va avoir envie de lire le milieu. Donc je réfléchis à ça, à cette fin, en me disant, bon, s'il triche, il faut quand même que je le prenne au piège avec cette fin un peu bizarre ou énigmatique.
Quant à vous, Sylvie Miller, le parti pris au niveau de l'écriture, c'est d'empoigner le lecteur avec un humour parfois extrêmement... j'allais dire à Goscinny, c'est quasiment du Astérix. On est pris tout de suite dans les jeux de mots, dans les situations comiques. Ça, c'est votre accroche.
Alors effectivement, le parti pris sur la serre, c'était de finalement mélanger dans cette série, avec mon co-auteur Philippe Ward, un petit peu toutes les choses qu'on aimait, à savoir, ben, on est passionné d'histoire, et notamment toute la période antique, l'Égypte, les Romains, etc., etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait quelque chose de cet univers-là. On adore les polars, les histoires de détectives, donc du coup notre personnage est un détective qui va mener des enquêtes. Et on a finalement un certain sens de l'humour tous les deux, on aime bien s'amuser, et donc on avait envie de faire quelque chose d'assez truculent, et d'où l'idée de ce personnage de détective qui finalement est pas forcément doué, pas forcément courageux, mais qui finalement est très rusé, arrive à se sortir de tout un tas de choses, et on prend un malin plaisir à lui mettre des bâtons dans les roues, et évidemment il y a énormément d'humour, de situations, et là le lecteur va finalement... déjà il est empoigné et il se dit mais qu'est-ce qui va encore lui arriver, qu'est-ce qu'il va encore faire comme bêtise, et finalement l'un dans l'autre c'est aussi comme ça qu'on arrive à surprendre le lecteur, parce que et bien souvent d'ailleurs la surprise ne vient pas d'où on pensait qu'elle viendrait, donc c'est aussi une façon d'écrire, et puis du coup l'humour, le lecteur s'amuse assez régulièrement, et ça aussi bah, du coup il est content, il a envie d'avoir la suite et de rigoler encore.
Et puis avec le gag récurrent dans chaque livre, chaque fois que Lasserre s'installe au bar du Sheraton pour pouvoir enfin boire son whisky durement gagné, on sait que là, il réussira pas à arriver au bout du verre.
Oui, puisqu'en fait, le Sheraton, donc il habite dans un hôtel, et donc il est au bar pour cuver son whisky assez régulièrement. Et donc il se dit, bon ben ça y est, je suis tranquille, je vais enfin pouvoir me poser. Et régulièrement, un dieu surgit pour lui donner à nouveau une enquête. Et quand les dieux commandent, on ne refuse pas. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, il se retrouve entraîné malgré lui dans toute cette série d'aventures assez rocambolesques.
Alors justement, là, comme on a abordé aussi un petit peu la période historique avec vous, Sylvie Miller, c'est vrai que par une bonne partie, me semble-t-il, de la manière dont vous empoignez le lecteur pour lui faire lire votre roman, c'est que chacun, vous avez fait des romans qui sont historiques récemment, avec des périodes de l'histoire qui sont pas forcément bien connus. Et je voudrais savoir, puisque vous, Jean-Laurent Del Socorro, c'est un épisode vraiment très particulier, et j'avoue que je suis allé regarder sur Wikipédia, parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait une république à Marseille. Bon, et si, ça c'était pas de la fiction, c'était la part réelle du livre. Vous, Silène, vous prenez certaines des... la reine Margot, avant qu'elle débute les frasques célèbres qui l'ont rendue ensuite célèbre. Et vous, Sylvie Miller, c'est donc l'Égypte des années 30, mais une Égypte tout à fait particulière. Donc, peut-être pourriez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi ces périodes qui sont à chaque fois très intrigantes et, pour deux d'entre vous, mal connues.
Le choix du cadre historique, il est double. C'est déjà de pouvoir hériter en fait d'emblée d'un décor assez précis. Et puis effectivement, l'épisode étant peu connu, puisque au royaume, donc effectivement, de vent et de colère, c'est la fin du XVIe siècle. C'est Henri IV qui vient de se convertir et qui fait la reconquête de son royaume. Le sud lui résiste, et donc Marseille, qui est une république catholique indépendante. Donc un événement peu connu, c'est elle est restée indépendante quelques années. Et quand on tombe là-dessus, on se dit souvent, ce que vous dites, on va vérifier, on dit c'est presque plus surréaliste en fait que si j'avais inventé une fiction. Et on a un cadre extraordinaire. Et donc on a un cadre extraordinaire avec des éléments sur lesquels on peut rebondir au niveau de l'écriture, sur lesquels on avait intéressé le lecteur, avec à la fois une richesse historique autour du roman dans lequel on peut alimenter le récit, et à la fois aussi un écueil qu'il faut parfois éviter, c'est pas faire un cours d'histoire. Donc c'est vrai que le travail de réécriture derrière, c'est de dire quels éléments sont pertinents, lesquels ne le sont pas. Après, utiliser un cadre historique méconnu, c'est aussi intéressant, j'allais dire, qu'inventer une fiction de A à Z, je trouve vraiment, personnellement.
D'autant plus que dans votre cas, c'est un roman de fantasy parce que vous introduisez un élément de magie qui est l'art avec ses arbonniers qui maîtrisent un pouvoir et tout en faisant partie de l'Église. C'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'est une sorte d'histoire secrète puisque à la fin, vous faites coïncider l'histoire que vous racontez avec la vraie histoire, et on termine sur Pierre de Libertat. Alors, on ne va pas trop déflorer quand même, sauf si vous vous précipitez pour lire l'histoire de la République de Marseille sur le net après, où là, vous verrez un petit peu. Mais donc, vous réussissez à faire coïncider les deux.
Oui, tout à fait. Le choix était compliqué à un moment, c'est-à-dire... je prends un cadre historique, à quel moment je le garde intact, à quel moment je le déforme. Ça, c'est... parce que ça aussi, c'est source de comment tenir le lecteur. Après, comme c'est une période, entre guillemets, qui est effectivement peu connue, qu'on la garde intacte ou qu'on la déforme, il y a peu d'enjeux. J'allais dire, si ça avait été, je sais pas, un livre sur l'assassinat de Kennedy, là, il peut y avoir effectivement une tentation de se dire, on dévie la balle de quelques centimètres, ça change la donne. Mais effectivement, sur celui-là, j'ai un respect de l'histoire et à mon avis qui participe à l'intérêt du lecteur, pour le coup, à le garder au bout de la page, au bout du livre.
Et donc, Sylvie Miller.
Oui, donc C'est important ce que tu dis sur effectivement le cadre pour garder le lecteur. Alors, tu parlais effectivement de romans historiques ou en tout cas d'environnement historique pour la serre. C'est à la fois vrai et à la fois faux, puisqu'on est dans une uchronie, donc l'histoire n'est pas l'histoire. Nous, il nous fallait, pour pouvoir installer un détective qui puisse travailler pour le compte des dieux et où les dieux soient présents au milieu des hommes et qu'on y croit, que ce soit crédible et qu'il n'y ait pas de soucis, on s'est dit on ne va pas prendre le monde d'aujourd'hui parce que le monde d'aujourd'hui est beaucoup trop rationnel entre l'informatique, la mondialisation, l'info qui tourne instantanément. Donc on s'est dit on va repartir à une période où on n'a pas encore les ordinateurs, où les mondes peuvent encore rester assez cloisonnés, même s'il y a des voyages ou des choses comme ça, et donc les années 30, puisque dans les années 30, il y avait déjà des avions, il y avait... voilà. Et les années 30, pour qu'il y ait encore des dieux, il fallait qu'on ait gardé plus ou moins les structures du monde antique. Donc c'est un espèce de mix entre un monde des années 30, mais avec les temples anciens qui sont encore debout. À Gizeh, il y a 9 pyramides, bon, etc., etc. Et du coup, ben, il faut jouer effectivement avec l'histoire, puisque les dieux, dans leur personnalité, dans leur façon d'agir, dans la façon dont ils sont vénérés, ils sont totalement, on respecte totalement l'histoire, sauf que dans les années 30, c'est des VIP. Donc, c'est des people, en fait, comme ont pu l'être les grandes stars de cinéma de cette époque-là. Et du coup, c'est intéressant de jouer là-dessus, parce que le lecteur va à la fois trouver les éléments de l'histoire qu'il connaît, mais suffisamment déformés pour que ça soit intéressant, et qu'il rentre dedans, et qu'il aille explorer ce monde-là, en se disant, tiens, c'est drôle de voir ce qu'ils en ont fait.
C'est l'Antiquité en 1930. Et vous, Silène Edgar, le choix de la reine Margot ?
Alors, comme c'est un roman pour les adolescents, c'est d'autant moins connu des ados hein, qui voient peu les guerres de religion, voire pas du tout, parce que ça arrive en fin de programme de 5e, et en fin de programme, on n'a jamais le temps de finir. Surtout avec les programmes d'histoire délirants que les collègues ont. Or, ces guerres de religion, bon, c'est la seule guerre civile qu'on ait eue. Et puis aujourd'hui, ça résonne quand même drôlement, je pense, avec les guerres de religion qu'on connaît un peu partout. Mais c'est difficile avec des adolescents d'aller aborder des sujets d'actualité de plein fouet. Au-delà du sujet d'actualité qui est les guerres de religion, il y avait un autre sujet central dans le livre, c'était le malaise de la jeune fille. Et c'est pareil, j'avais pas envie de l'aborder de plein fouet, suicide ou drogue ou quoi que ce soit. Donc j'utilise une mise en abîme puisque c'est par le livre qu'elle s'évade. Et c'est par le livre qu'elle découvre le mariage de Margot et la différence à l'époque entre protestants et catholiques, la haine qu'il a pu y avoir et puis ce déchaînement de violence incroyable qu'a été la Saint-Barthélemy. Et au début, c'est un livre. Elle se retrouve héroïne de livre. C'est fun finalement hein, quand on a 13 ans. Et puis ça devient réel tout d'un coup parce qu'il y a un personnage qui n'en est plus un pour elle et qui est victime et ça permet aux adolescents il me semble de se rendre compte que cette histoire très lointaine elle peut résonner pour eux parce que tout simplement Margot elle avait 15 ans Henri de Navarre c'était un jeune homme c'était des gens comme eux finalement qui se retrouvaient mariés très tôt avec peu de choix et puis une arme à la main pour aller en tuer d'autres alors qu'ils n'avaient pas 20 ans quoi. Donc je trouvais ça intéressant de renseigner ces jeunes lecteurs sur cette époque, mais aussi de leur faire toucher du bout du doigt l'histoire, leur faire dire bon, c'était des gens, c'était des êtres humains, c'était pas juste des figures dans un livre. Et si on s'y intéresse un petit peu, on peut découvrir beaucoup mieux ça. C'est pas hermétique l'histoire, même si elle est très ancienne pour eux, puisque même le 20e pour eux c'est vieux.
D'ailleurs, il y a le message au début qui s'adresse à tous les adolescents. Le livre, c'est l'évasion, ce qui aujourd'hui est devenu relativement peu courant.
Oui, et puis en même temps, c'est une évasion qui est dangereuse, parce que si jamais la lecture n'est pas encadrée, on peut se retrouver comme Adèle à s'y plonger un petit peu trop. J'avais pas envie de faire quelque chose qui soit très prof de français. Lisez, c'est bien. Oui, évidemment, lire, c'est bien. Mais pour autant, réfléchir à ce qu'on lit, c'est essentiel. Et les parents d'Adèle n'accompagnent pas cette jeune fille. Dans sa lecture, dans ce qu'elle découvre, ni de son histoire ni d'elle-même en fait. Et c'est pour ça aussi que, alors dans le livre, donc il y a les noces elles-mêmes, et puis il y a tout un passage sur Ambroise Paré, sur le corps, sur la médecine, qui me semblait important aussi pour que les jeunes gens se rendent compte que leur rapport au corps, qui est compliqué hein, toujours à cet âge-là, en fait il a été encore plus compliqué avant puisqu'on se connaissait très mal, et que finalement par cette exploration qu'Adèle fait du corps avec le médecin, il y a aussi la possibilité pour eux de s'explorer eux-mêmes. Et le fait qu'Adèle soit seule pour faire cette exploration d'elle-même, de ce qu'elle pense, de son histoire, c'est pas bien pour elle. C'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, c'est pas seulement l'histoire qui m'a intéressée, c'était beaucoup le rapport de l'enfant à l'histoire.
Alors, ce qui m'a aussi beaucoup frappé en lisant vos différents livres, c'est que une autre manière aussi dont vous accrochez le lecteur, dont vous l'empoignez, c'est à travers certains de vos personnages et leur psychologie. Et en particulier, ce qui m'a frappé, c'est que dans vos romans, Silène Edgar et Jean-Laurent Del Socorro, il y a des femmes extrêmement fortes. Et dans La Serre, la jeune femme du début, la secrétaire de La Serre, Fazimel, qui au début est très effacée, complètement soumise à son patron, au fur et à mesure du développement de l'histoire, devient un personnage qui s'affirme de plus en plus et qui, dans le troisième, tient vraiment son rôle aux côtés de son patron. Donc est-ce que c'est une volonté délibérée, je vais être un peu provocateur, de répondre à tous les arguments des féministes qui trouvent qu'on ne met pas assez en valeur le rôle des femmes, etc. Alors vous avez fait ça à dessein?
Alors en ce qui concerne Royaume de vent et de colère, j'avais envie de trouver, alors je sais pas si on peut appeler ça du féminisme, mais j'avais envie de retrouver des personnages féminins qui, selon moi en tant que lecteur, je retrouvais toujours un peu des archétypes, la princesse, la reine. J'avais envie de trouver des gens qui soient sincères, soient hommes comme femmes. Donc on a des femmes qui revendiquent un aspect martial, on a des femmes qui revendiquent une volonté politique, d'être présentes sur la scène. Tous ces personnages-là, que ce soit Victoire, que ce soit Axel, je les voulais fortes, sincères, et qui ne soient pas dans peut-être les images féminines qu'on a d'habitude dans la littérature de fantasy. Alors c'est un peu prétentieux de ma part, voilà, de dire ça comme ça. Et l'envie sur les personnages, et c'est très vrai que ce soit les personnages masculins, c'est-à-dire Gabriel, le chevalier ou les autres, je voulais des personnages sincères, être avec eux, on est vraiment caméra à l'épaule dans le roman, et effectivement ça aussi je pense que ça participe au lecteur de s'identifier au moins à un de ces personnages. Je voulais de la place sur les personnages masculins comme féminins, je voulais qu'il y ait une certaine représentation aussi ethnique dans mes personnages, et des personnages qui viennent du Maghreb. Je trouve ça important qu'aujourd'hui on puisse écrire un roman de fantasy où on n'est pas que des princesses blondes, que des héros. Mais je dis ça très sincèrement. Je pense que je voulais représenter une réalité de notre société aujourd'hui, au 21e siècle, dans cet univers-là, même si c'est vrai que c'est en décalé. Pour moi, c'était important, en tout cas.
Oui, mais enfin, là, pour que les personnes ici présentes comprennent un petit peu mieux, il faut peut-être préciser quand même. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vos personnages féminins, alors vous y avez fait un peu allusion, mais il y a Victoire qui est la chef de la guilde des savonniers qui sont les assassins patentés à Marseille. Tout passe par eux, donc elle est la maîtresse des bas-fonds de la ville, quelque part, on peut dire ça comme ça. L'autre personnage féminin très fort chez vous, c'est Axel, qui a été capitaine d'une compagnie de mercenaires et une des compagnies les plus respectées, les plus recherchées dans le monde de l'époque. Donc ce ne sont pas des faibles femmes comme ça. Et vous avez fait une allusion à la comtesse de Sceaux, qui est, qui est, elle, une politicienne redoutable qui tire les ficelles de tous les complots possibles et imaginables. Et quelque part, les hommes sont un petit peu à la traîne, parce que le chevalier Gabriel, il est manipulé par la comtesse et il fait ses quatre volontés. Gabriel, le mari d'Axel, qui était son lieutenant, on comprend pourquoi il était son lieutenant, hein, et que c'était pas lui le capitaine. Donc vous avez des personnages féminins qui sont extrêmement forts par rapport aux personnages masculins.
C'est vrai que je ne l'avais jamais analysé comme ça, mais à votre regard d'analyse, oui, il y a un peu de ça. Je veux juste revenir sur un des personnages qui est Chrétienne Daguerre, donc la comtesse de Sceaux. Si vous avez lu ou si vous lisez le roman, ce personnage est historique. Tout ce qui lui arrive, alors les échéances de temps sont légèrement variables, c'est vrai, donc je n'ai pas inventé ce personnage-là. C'est un peu comme la République de Cazaux et de Marseille à la fin du XVIe. Elle est réelle, elle a vraiment fait tout ce qui est indiqué, elle a eu des... voilà. Donc quand je dis que parfois il suffit de s'appuyer sur l'histoire pour avoir un récit, là on se trouve avec une femme forte qui a existé et qui a eu une influence considérable sur les événements et sur l'histoire de cette époque. Ça aussi c'est très important à souligner.
Alors sur les personnages, en tout cas dans la serre, nous on n'a pas eu tout à fait la même démarche. Bon, il s'agissait pas, on n'a pas dit tiens, on va faire du féminisme, on va mettre une femme forte, etc. Comme on était sur finalement une littérature, donc on était sur le policier, le polar un peu à l'ancienne des années 30, il fallait partir de ces codes-là. Donc forcément, on avait le détective qui boit, qui est un peu cogné dans sa tête, un peu macho sur les bords, un peu dragouilleur. Et puis à côté, il fallait démarrer par une secrétaire un peu effacée. À un moment donné, on a la bimbo aussi, hein, Médée, qui arrive. Et en fait, on s'est joyeusement amusé petit à petit à démonter ces codes et à montrer que finalement, le détective, sous ses grands airs, il roule des mécaniques, il est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît, il a ses propres blessures et finalement, on finit par le trouver sympa. La secrétaire se révèle finalement être extrêmement précieuse et un grand soutien, et puis effectivement elle se développe. La bimbo n'est pas si bimbo que ça, puisqu'elle est notamment victime d'une malédiction, etc., etc. Et donc c'est joyeusement amusant de bousculer tous les codes finalement pour transformer. Et c'est ça aussi qui empoigne et qui retient le lecteur, parce que il voit les personnages évoluer et il les accompagne dans leur évolution. Et en général, les gens sont assez contents de voir où on les emmène. Ils se laissent vraiment empoigner avec grand plaisir.
Oui, et puis alors, bon, j'espère qu'elle ne va pas me vaporiser comme elle le fait avec les Pachas, mais il y a quand même une femme qui est la star incontestée dans tous les sens du mot de la série, c'est Isis.
Ah, la déesse Isis, effectivement, qui est très capricieuse, très... Et puis alors, dès qu'on fait quelque chose qui ne lui plaît pas, elle claque des doigts et elle vaporise à tout va. Donc... Alors elle veut qu'on la regarde, elle veut qu'on l'admire, mais si on la regarde de façon trop prononcée, parce que évidemment elle est belle, elle vaporise. Donc c'est très compliqué d'être auprès des dieux.
Et chez vous, Silène, il y a eu ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous mettez en scène une femme qui finalement, pour son époque, est une femme extrêmement libre. C'est Margot qui va devenir reine de France, qui collectionne les amants, qui est une femme extrêmement cultivée pour son temps. Donc là aussi, vous mettez en scène une femme qui est tout à fait paradoxale.
J'ai pas pu énormément développer Margot. J'ai cité Dumas parce que je trouvais ça important, il en parle bien. Moi, j'ai très envie de continuer avec ces questions-là. En effet, on a quand même au XVIe une réflexion des femmes fortes qui écrivent, qui sont cultivées, qui réfléchissent à leur situation. Et ça dure jusqu'après les précieuses, en fait, hein, quand Louis XIV se débarrasse de Fouquet et des précieuses dans le même temps. Et c'est une période qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, l'année prochaine, je vous ramènerai un livre sur les précieuses.
Rendez-vous.
Mais Il y a deux choses. Quand j'écris pour adultes, dans Fêlure et Fortune Cookies, j'avais vraiment cette question importante, je pense, pour les femmes. J'avais envie de parler d'une chose, c'est pas par féminisme, mais c'était le sujet qui m'intéressait dans les deux. C'était ce moment où on se demande si finalement, les choix qu'on a faits, familiaux, est-ce qu'on a envie de rester ou pas, est-ce qu'on a envie de partir, avec l'impression qu'on peut pas. Bon, il y a les enfants, il y a le mari et tout, on peut pas laisser tout ça quand même, on est maman. Hein, mais si, en fait, pourquoi pas? Pourquoi ne pas partir si on a envie? Et donc, c'est vraiment ce thème très précis que j'avais envie de traiter dans les deux, un moment sérieux et dans Fêlure beaucoup plus burlesque. Donc, voilà, moi j'aime bien cette idée de décliner un sujet, non pas par féminisme, mais parce que ça nous touche et que ça me semblait important d'en parler dans ces textes-là. Après, quand c'est pour la jeunesse, c'est un petit peu plus, on peut pas raconter n'importe quoi non plus. Dans 14-14, avec Paul, on avait choisi des garçons parce que on voulait pas justement tenir un discours sur la femme au début du 20e, parce qu'on n'avait pas envie de le développer. Or, il nous semblait important, si on parlait de la femme au début ou de la jeune fille au début du 20e, de le faire bien. Donc, comme il y avait déjà beaucoup de choses à mettre, on s'est dit avec des garçons, on ne va pas aborder ces choses-là. Et du coup, j'en parle un petit peu plus dans Adèle, de ça, du choix d'une jeune fille avec à un moment sa mère de rêve qui lui dit, de toute façon, enfin, voilà, on va te marier, puis c'est tout. Et Adèle qui, enfin, ma mère est pas fun en vrai, mais celle-là, non seulement elle est pas fun, mais en plus, elle va me marier à un vieux type que j'ai pas choisi. C'était encore moins rigolo à l'époque. Alors, après, savoir si pour les jeunes filles, ce début de réflexion va leur être utile, je sais pas. Mais je pouvais pas me l'épargner en parlant du 16e. Je pouvais pas faire comme si les jeunes femmes étaient libres à l'époque comme Margot. Et même si Margot était cultivée et libre sur certains points, elle est quand même obligée de se marier. Hein, ça, et puis ça a pas été très drôle après, quand même. Son mari l'a exilé, il s'en est débarrassé.
Ça a pas été très drôle pour ses amants non plus, si on en croit.
Non. Non, mais elle en a eu beaucoup. Donc, il y en a pour qui ça a été mieux que pour d'autres, apparemment. Mais en effet, celui de Dumas, le pauvre, il a été écourté.
Cela m'amène justement à travers ces personnages. Tu as vu une autre ligne de force qui me semble sous-tendre tous vos romans. Et justement accrocher le lecteur parce que on suit vos personnages en se demandant ce qu'il faut faire, c'est la question en fait du libre arbitre et du choix qui se pose pour tous vos personnages. C'est-à-dire que dans chacun de vos romans, on a affaire à des personnages qui semblent avoir un destin qui est fixé, auquel ils ne pourront pas échapper, et ce qui me semble-t-il une question très contemporaine. C'est ce que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui. Nous vivons dans un monde dans lequel nous ne pouvons pas faire grand-chose. On subit au lieu d'être acteur. Et vous, à travers vos romans, il me semble que ce que vous mettez en scène, c'est justement toute cette question du libre arbitre, des gens qui semblent prédestinés à quelque chose et qui finalement, chacun à leur manière, échappent à leur destin programmé. Je ne sais pas si vous avez des commentaires dessus, parce que ça m'a frappé à travers tous vos romans.
Dans Royaume de vent et de colère, effectivement, cette problématique-là, elle est très présente. C'est-à-dire, on a effectivement l'impression, comme vous l'évoquez, qu'il y a un destin figé pour chaque personnage. Or, tout l'enjeu du récit qui est très centré sur les personnages, c'est est-ce qu'ils se soumettent ou pas. Et les réponses vont être très différentes d'un personnage à l'autre. On suit par exemple le personnage de Gabriel, qui est quand même donc un chevalier protestant, donc qui lui va connaître les revers effectivement de l'épisode bien connu de la reine Margot et de la nuit de la Saint-Barthélemy, qui pour sauver sa vie, lui va devoir se convertir au catholicisme. Et puis après, donc on va suivre ce choix-là, c'est-à-dire entre guillemets avoir renié sa foi, prêter allégeance à une nouvelle religion. Qu'est-ce que ça implique? Auprès de qui je suis engagé? Est-ce que j'ai renié ma foi? Est-ce que je peux renier la nouvelle? Que ce soit au niveau par exemple du personnage d'Axel, qui était donc capitaine d'une bande de mercenaires, qui décide de tout arrêter pour s'installer, se marier à la demande de son mari, donc une décision qu'elle, entre guillemets, qu'elle subit, même si elle l'accompagne. Et puis elle regrette cette époque-là. Tenir une auberge, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup moins palpitant et certes beaucoup moins dangereux. Surtout quand on vient d'avoir un enfant, c'est plus facile pour l'élever. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la question de un destin qui n'est pas établi, une question qui se pose à chaque personnage et comment il se positionne, c'est effectivement un positionnement très contemporain de l'écriture et de l'approche des personnages. Et je pense effectivement. Alors, si les lecteurs arrivent à s'identifier un peu au personnage, oui, c'est un facteur d'accroche qui est très fort, je pense.
Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez le couple d'Arbonnier, Armand et Roland. Eux aussi, alors eux sont doublement, comment dirais-je, en contradiction avec leur époque. Ils ont fait des choix parce que d'abord, ils vivent tous les deux ensemble, deux hommes ensemble. À l'époque, c'est pas forcément bien considéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus de ça, ils sont tous les deux magiciens. Et dans l'Église catholique.
Oui, tout à fait. Alors, c'est eux, ils ont oui, eux, entre guillemets, ils n'ont pas une vie facile, c'est vrai, dans le roman. Le choix est compliqué. Il y a effectivement ce double choix, effectivement, de personnages qui est à la fois un choix individuel. Ils veulent vivre leur vie, leur amour sereinement dans une époque qui n'est pas propice à ça. Donc ça, c'est j'allais dire l'aspect personnel du choix qu'ils essayent d'assumer dans un monde qui ne leur est pas propice. Et le deuxième, plus que l'aspect magie, même si elle est présente, c'est comment on appelle ça, l'idéologie de cette magie. Ils ont un pouvoir qui est très peu répandu, le pouvoir de l'art et de l'arbon, une pierre en fait, effectivement, qui permet d'accéder à une certaine magie. Et il se trouve ben, que ce qu'il voudrait en faire en tant qu'être être humain, on va dire, et ce qu'il aurait demandé de leur hiérarchie, notamment d'une certaine partie de l'Église, ça les met en contradiction. Donc eux, ils ont un choix éthique. J'ai un pouvoir, on me demande de l'utiliser d'une certaine façon et de ne pas l'utiliser d'une certaine façon, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est un choix. Ça nous renvoie tous à des problématiques. Je pense qu'il y a des moments où on s'est dit, ben, professionnellement, donc à des échelles beaucoup moins grandes, je fais ça par automatisme, mais au fond de moi, est-ce qu'éthiquement, c'est ce que je devrais faire? Voilà. Donc, oui, on retrouve ce dilemme-là auprès des deux Arbonniers.
Sylvie Bilaire.
Alors, donc le personnage qui est un petit peu coincé et qui ne peut pas agir, bah, c'est effectivement le cas de la serre. Alors au départ, quand il échoue au Caire, il sort d'une histoire d'amour, il est un petit peu démoli, donc. Et Isis débarque dans sa vie et va venir tout révolutionner. Alors il faut comprendre que les dieux. Bah, ce sont des dieux, donc ils sont immortels, ils sont tout-puissants, et donc pour eux, les humains, c'est un peu comme des fourmis, ça a une durée de vie très courte, enfin, ils ne les comprennent pas, ils ne les comprennent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vaporise à tout va, ou que à un moment donné, Isis, lors d'une enquête, finalement envoie la serre au charbon. Il se retrouve entraîné dans une série de péripéties et finalement il renonce parce qu'il manque se faire tuer. Et quand il retourne la voir pour lui dire qu'il n'est pas arrivé à faire ce qu'elle lui avait demandé, elle trouve ça absolument mesquin. Il a renoncé juste pour pas mourir, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, il est toujours sur le fil du rasoir, il est complètement coincé parce que à tout moment, il peut se faire vaporiser. Donc, il essaie de sauver sa peau et c'est un petit peu ce qui le contraint à agir. Mais curieusement, petit à petit, il arrive quand même à développer une espèce de relation, notamment avec Isis. Finalement, elle s'attache à ce petit animal-là. Elle le trouve plutôt pratique, plutôt sympa. Il rend un certain nombre de services aux dieux qui lui sont un peu redevables et donc il va gagner une petite marge de liberté pour essayer d'échapper un tout petit peu à ce pouvoir et à ce qui lui pend au nez. Mais le pauvre, il n'est pas rendu puisque finalement, après les dieux égyptiens, c'est les Grecs qui vont lui tomber sur le paletot et là, bientôt, dans le tome 4, ce sera les Romains.
Parce que déjà dans le tome 3, il se retrouve coincé entre Zeus et Poséidon. C'est pas facile.
C'est pas facile, surtout qu'en plus, Zeus et Poséidon en profitent pour vider de vieilles querelles. Lui se retrouve au milieu et il est effectivement toujours sur le fil du rasoir.
Avec Isis qui essaye d'avancer ses pions pendant ce temps-là à travers lui.
Oui, c'est là où on découvre cette espèce de jeu politique en fait, entre les dieux qui essayent de... plus ils ont de fidèles, plus ils sont puissants. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les fidèles des autres dieux soient moins nombreux. En même temps, il ne faut pas que ça se voie parce qu'il ne faut pas déclencher une guerre entre dieux. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que l'univers se développe, on découvre vraiment toutes les intrigues politiques et ça nous permet d'aborder en fait le thème du pouvoir à travers tout ça.
Et là, on retrouve le libre arbitre et le choix de chacun. On peut se convertir, mais c'est mal vu.
Absolument.
Et ça, c'est très contemporain aussi. Et vous, Silène, donc.
De nouveau, je vais faire la distinction entre les textes plutôt pour adultes, donc oui. Où il y a vraiment cette question du choix qui est centrale, puisque les deux jeunes femmes, Blanche et Gwen, doivent choisir entre leur vie de famille et une autre vie. Blanche, dans les Fortune Cookies, elle est coincée à un moment. Il y a quelque chose qui fait qu'elle peut pas vraiment en fait faire de choix. Gwen, elle a vraiment ce choix-là. Qu'est-ce qu'elle va choisir ? Le côté fun d'être une fée la nuit ou une vie de famille quand même assez réussie et pas si mal. Et voilà, donc j'ai dit tout à l'heure, je trouvais ça intéressant de se poser cette question du choix, de dire qu'il existe toujours et que même si la morale trouve ça répréhensible, on le garde, ce choix-là, de continuer à faire sa vie comme on l'entend. Dans Adèle, c'est autre chose. On a une jeune fille, alors j'ai eu quelques retours, peu, mais suffisamment pour que ça me touche, qui me disait oui, mais en gros, il y a Adèle, elle finit mal dans le livre et puis elle choisit de s'en sortir. Et on me dit est-ce que le fait de dire à des ados oui, vous pouvez faire un mauvais geste, de le mettre en scène et que finalement elle s'en sorte, est-ce que c'est bien ? Enfin. De toute façon, ils l'ont le choix. Et à un moment, de leur dire, vous avez ce choix-là, c'est une évidence, vous pouvez vous foutre en l'air. Hein. Et vous le faites d'ailleurs parce que c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les ados. Mais ne le faites pas parce que c'est qu'un moment, passer par-dessus, essayer de trouver des ressources pour passer par-dessus ça. Ça me semblait important, oui. De pas nier ce choix à un moment qu'un adolescent peut faire. Parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ne sont pas bien, pour 36 000 raisons. Et c'est le sujet du livre, de dire, ne faites pas ce choix d'arrêter.
C'est curieux d'ailleurs, parce qu'en fait, ça me semble finalement, c'est quelque chose de très positif, à travers la fin du livre, bon, on ne va pas la déflorer, mais le choix qu'elle fait montre à d'autres adolescents qui lisent ce livre qu'il n'y a sans doute pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême pour pouvoir en fait, il faut simplement percer les abcès avant, discuter et mettre les problèmes sur la table, parce qu'en fait c'est ça la conclusion, c'est que si elle avait pu discuter de manière ouverte, et on le voit bien au début, j'allais dire entre guillemets, les torts sont partagés entre parents et enfants, il y a aucun dialogue. Donc, c'est à la fin, c'est ce dialogue qui finalement s'établit.
Oui, alors après, mon gros souci, et j'espère que je n'ai pas été trop moraliste dans ce texte-là, de trop dire il faut discuter, il faut dialoguer, etc. C'est pour ça que j'utilise la fiction, c'est que quand il s'agit de le dire aux adolescents comme ça en direct, surtout quand on a leur prof, c'est tout de suite très moraliste. Du coup, j'utilise la fiction pour le dire d'une autre façon, en essayant de leur montrer que c'est à eux de se saisir de ça et de donner du sens à ça. Donc, en effet, il y a ce dialogue qui peut résoudre le problème, mais surtout, le choix qu'elle fait au-delà du dialogue, c'est le choix de réfléchir à sa situation, de se poser des questions, et après, une fois que elle a fait ce choix de se dire bon, je vais pas tout abandonner parce que j'ai encore des questions à me poser, j'ai encore des choses à faire, là oui, le dialogue est possible. Mais avant, il n'était pas possible, sinon elle l'aurait fait. ou les parents l'auraient fait. Je pense pas que, même s'ils ont l'air d'être des mauvais parents, ils ont l'air d'être des mauvais parents surtout parce qu'on est du point de vue d'Adèle, mais ce sont des parents comme les autres, ils sont ni bons ni mauvais.
Alors qu'il me semble que dans Fêlure, le choix est beaucoup plus difficile parce que le choix est irréversible. On choisit une nature ou l'autre et puis après ça, il n'y a plus de retour ou de changement possible. Donc quelque part, ça me semble beaucoup plus dur comme dilemme.
Oui, en même temps, c'est aussi un livre pour adultes. C'est sûr que si on se barre et qu'on laisse son mari et ses enfants, c'est difficile de revenir après en disant « Ah, en fait, c'était cool, je reviens, ça fait 6 mois, chérie. » Mais... Du coup, ouais, en effet, il y a vraiment... je crois que quand on est en couple et qu'il n'y a pas les enfants, le choix de partir est compliqué, évidemment. Mais quand il y a les enfants et que bah, tout d'un coup, il n'y a plus le papa ou il n'y a plus la maman, on peut pas recoudre. Je ne dis pas que c'est facile de recoudre quand il n'y a pas d'enfants. Hein, c'est de toute façon compliqué. Mais quand il y a des enfants, comme eux, ils sont là, qui posent des questions, qu'il faut poser certaines choses et que toute l'organisation change et tout, si Gwen part, forcément, c'est irréversible. Alors après, on peut imaginer d'autres choses, mais là, ce n'était pas le sujet du livre.
D'accord. Alors, comme je vois que l'heure tourne très vite... Peut-être en conclusion, je vais vous poser la question à tous les trois. Alors, comment comptez-vous nous empoigner avec la prochaine fois ? Parce que je suppose que vous êtes tous en train d'écrire.
Je pense que je vais garder l'aspect de toute façon historique et je vais reprendre en fait un contexte qui interroge, qui est aussi violent que celui-ci pour appeler le lecteur. Donc, commencer par le cadre et le deuxième point ce sera pareil, trouver des personnages sincères pour intégrer dans ce cadre historique pour que le lecteur puisse s'identifier.
Alors moi, il y a deux choses. Donc je travaille sur Mademoiselle de Sévigné. J'aimerais bien accrocher le lecteur avec du, comme j'ai lu plein de Dumas du coup pour la Reine Margot, en faisant un petit peu de un roman de KPDP. Donc voir si j'arrive à faire ça, ça m'intéresserait bien. Et puis je me suis fait prendre au piège moi-même puisque j'étais empoignée par une situation réelle et du coup j'écris quelque chose qui n'était pas du tout prévu et mon éditrice n'est pas encore arrivée donc. Je peux le dire, puisque en tant qu'enseignante, je m'occupe d'un jeune homme qui est arrivé, qui a traversé la Méditerranée tout seul et à qui je dois apprendre le français, un enfant d'une intelligence rare, très cultivé, mais qui voilà, qui me révèle au fur et à mesure tout ça, parce que bah, comme il ne parlait pas un mot de français, personne ne le savait, et du coup j'écris. Ça et en fait là pour la première fois je réfléchis absolument pas à ce que je vais faire, ce que je vais construire ni rien, je note, j'essaye de faire quelque chose de propre au fur et à mesure parce que ça me semble tellement dingue ce choc des cultures de ce jeune homme qui arrive là dans mon bled complètement perdu au fin fond de la Brière qui arrive avec voilà, c'est un beau de people quoi. C'est un gamin qui dit pas tout, qui est couvert de cicatrices et on sait pas. Et il montre ça au fur et à mesure. Donc là, en fait, c'est moi qui suis empoignée. J'espère que je vais en faire un texte poignant aussi. Voilà.
Sylvie Miller.
Alors, bah, le tome 4 de la Serre, forcément, qui est en cours de finalisation et qui devrait paraître à l'automne. Normalement, il aurait dû paraître aux Imaginales, mais comme il y a une autre vie à côté avec un vrai métier pour manger, si tant est que écrivain, ça en soit info. Donc, du coup, le tome 4 de la Serre, avec déjà l'anticipation du tome 5, parce qu'il y a déjà la suite. Le manque de temps fait que ça fait longtemps qu'avec Philippe, on a en projet une grande série de romans de fantasy basque. Là aussi, appuyé sur l'histoire et sur un certain nombre de périodes donc liées avec... Donc mon co-auteur, en fait, est originaire de l'Ariège, hein, des Pyrénées. Donc justement, c'est là où on voit, moi qui suis plutôt celte dans mes origines, et lui qui est du Sud. Donc la confrontation est assez intéressante. Donc voilà, plus bah, des petites nouvelles par-ci, par-là, quand les demandes tombent. Donc, voilà, on a largement de quoi s'occuper.
Parfait. Ben, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos trois intervenants et je vous invite à vous précipiter sur leur livre parce que j'avoue que moi, j'ai été totalement accroché et ils ne m'ont pas lâché jusqu'au bout. Hein. Merci à tous les trois.
Et donc, de toute façon, on sera à des moments divers et variés en dédicace à la Bulle du Livre. Donc, si vous avez envie de discuter, venir nous voir, nous poser des questions, surtout, n'hésitez pas, on vous rencontrera avec grand plaisir.
Et merci pour votre attention.